Info Club Sandwich. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens, 87.7 FM, également disponible en DAB+, et sur Radio Campus Amiens. Nous sommes le mercredi 4 mars 2026. Je suis en compagnie de Colline qui est à l'interview. Salut Colline.
Salut Margot.
Comment tu vas ?
Ça va bien. Et toi ?
Bah ça va, il fait beau encore, on est content. Alors aujourd'hui, on va écouter Yeah Mud du groupe Humour et LA Runaway de The Horrors. En deuxième partie d'émission, on retrouvera Emmanuel et ses invités pour parler culture. J'aurai également quelques événements à vous annoncer pour cette fin de semaine. D'abord, Colline, présente-nous tes invités.
Et je reçois Mathéo et Romain, président et vice-président de la JACH. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est la journée amiénoise du sport et du handicap que vous avez organisée. Vous êtes 7 à l'organiser. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Donc, la journée amiénoise du sport et du handicap, la JASH, c'est une journée donc, qui permet de sensibiliser en premier temps au handicap, aussi au sport adapté et au handisport. On promeut aussi notre filière qui est l'activité physique adaptée et santé en STAPS. Et donc, c'est une journée qui a lieu à l'UFR STAPS d'Amiens et au Coliseum, qui réunit environ 2000 personnes valides et en situation de handicap. On a une quarantaine d'activités physiques adaptées sportives donc à la pratique, accessibles à tous et à toutes, gratuits. Et voilà.
En fait, voilà, on a aussi dans cet objectif de venir montrer que même avec un handicap, la pratique physique reste accessible à tous. Et justement, il faut rester dans cet élan-là. C'est quelque chose qui s'est vachement développé depuis les Paralympiques. On a eu la chance que ce soit déroulé à Paris, en France. Et on perçoit vraiment déjà un essor de cette pratique-là sur le sport adapté, sur les e-sports. Et nous, en fait, on continue d'appuyer dessus avec cet événement-là, pardon, qui reste quand même l'un des plus grands événements de France sur le sport handicap organisé par des étudiants et qui a un poids énorme au niveau du territoire. On regroupe plus de 90 structures spécialisées au niveau du territoire qui viennent pour le coup de toute la région, qui viennent également du Grand Nord, qui peuvent venir proche de Rouen ou encore d'Île-de-France. On a un impact qui s'étend vraiment d'année en année. Là, pour cette année, on a la chance d'être l'édition un petit peu anniversaire. On est la 10e édition, donc on joue aussi vachement là-dessus. C'est un événement qui a commencé du coup en 2016. Et ce qui est marrant, c'est que d'année en année, on continue à rester en contact avec les anciens. Et eux aussi peuvent voir cette évolution-là, de se dire que voilà un petit événement qui commence à 300-400 personnes, qui finit à plus de 2000 personnes, voire 2500 personnes, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire sur le territoire.
Oui, parce que ça fait du coup, c'est la 10e année. Et alors, cette année, anniversaire, invité aussi un peu spécial, vous avez un athlète olympique, champion olympique.
Ouais, exactement. Alors cette année, on a eu de la chance. Donc le parrain de notre édition s'appelle Fabrice Morgado. Fabrice Morgado qui donc fait partie de la délégation française de Cécifoot, qui a joué lors des Paralympiques en 2024 et qui a d'ailleurs remporté la médaille d'or. Donc il sera présent sur toute la journée, qui pourra venir sur les différents temps, donc institutionnels, sur le temps table ronde, mais qui sera également présent au niveau du stand Cécifoot pour aider nos étudiants à encadrer, à animer, puisque personne n'est mieux placé que lui justement pour cette pratique-là.
Et en plus de ça, pour la 10e édition, on a décidé d'apporter de nouvelles choses. Par exemple, donc on a décidé d'apporter un écran géant qui va sûrement être fait sur la journée. On a décidé de voir les choses en grand. On propose 10 activités supplémentaires par rapport à l'année dernière. On essaie vraiment de voir les choses en grand. On a invité beaucoup de monde, beaucoup d'invités, beaucoup de structures qui sont présentes. On a pour l'instant 90 structures qui nous ont répondu favorables. Ça fait plus de 1000 participants, 300 encadrants. Donc c'est vraiment, on voit les choses en grand. Et pour cette édition, on veut tout donner, tout casser. Quoi.
Et alors, donc là, on va entrer dans la deuxième décennie de la JACH. C'est quoi l'objectif là, de cette dixième ? Qu'est-ce que vous voulez que ça marque et que ça apporte finalement à la JACH dans les années futures ?
Je pense déjà, on revient sur le but principal. C'est vraiment de sensibiliser au handicap. Donc vraiment faire parler, que tout le monde connaisse en fait, le sport adapté, le handicap, qu'est-ce que c'est. Et vraiment, on veut aussi promouvoir notre filière, qu'est-ce qu'on fait. Nous, souvent, je sais que nous, quand on parle de notre famille, qu'est-ce qu'on fait en APA, souvent on nous dit « ouais, qu'est-ce que c'est que l'APA ?» Et à travers cette journée, bah, voilà, on fait découvrir ce qu'on fait, notre métier, nos valeurs. Et je pense aussi un objectif, ça va être de s'étendre, parce que là, on touche la ville d'Amiens, mais pourquoi pas toucher d'autres villes. Je sais qu'à Beauvais, il y a la Papillon Blanc. C'est aussi un événement qui a lieu, l'IME à Papillon Blanc à Beauvais. Et c'est un événement étudiant aussi fait par des étudiants comme nous à l'UFR Staps d'Amiens. Et donc, c'est des journées comme celle-ci qui sont organisées par notre filière qui permet de sensibiliser le handicap, promouvoir le sport adapté. Et c'est des journées qu'il faut qu'on continue et qu'on arrive à étendre à travers tout le territoire, même à l'échelle nationale et même internationale. On a eu, grâce à l'UPJV, on a pu présenter la GSH à l'Alliance européenne BAOS. BAOS, qui est une alliance européenne à travers différentes universités européennes, donc un peu partout, Portugal, Angleterre, Allemagne, Italie. Et donc, on a pu présenter la GSH à ces personnes-là. Et c'était ravi de connaître cette journée et ce qu'on fait. Et donc, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on doit aller et essayer d'étendre pour sensibiliser et promouvoir un max ce qu'on fait.
Alors, vous l'avez dit, il y a une... Il y a d'autres élèves, d'anciens élèves qui ont organisé la GSH, qui vous accompagnent aussi un petit peu, qui vous donnent des conseils ou qui suivent aussi de près l'organisation.
Ouais, bah justement, là-dessus, en fait, c'est ça qui est vraiment marrant, c'est qu'ils restent aussi très investis. En fait, dans cet événement-là, c'est un petit peu, entre guillemets, notre bébé à tous, au final, dès qu'on y passe. Là, je pense notamment à Thibaut Prince, qui est le premier organisateur, qui fait partie de l'équipe des premiers organisateurs de la GSH, qui continue à nous accompagner, qui maintenant travaille dans l'événementiel et qui nous permet aussi d'avoir de la visibilité sur certains de ces événements. Je pense notamment au match au niveau de l'Amiens SC qui nous permet d'avoir un stand de sensibilisation, par exemple au CC Foot. Et pareil, en dehors de ça, d'autres organisateurs qui sont toujours là avec nous, toujours pour nous donner des conseils, pardon, être là quand on en a besoin. Et ça reste un soutien très important dans la mise en place de cette journée.
Et alors, vous avez des bénévoles sur cette journée. Est-ce que on est obligé d'être étudiant, étudiante pour être bénévole, ou est-ce que, par exemple, des anciens élèves peuvent être bénévoles sur cette journée?
Alors là, au niveau des bénévoles qu'on a, donc on a fermé les inscriptions parce que voilà, on leur fournit le repas. Ils ont également les t-shirts pour qu'ils soient reconnaissables sur la journée. Donc les inscriptions bénévoles ont été fermées à 280 bénévoles, ce qui est énorme. Là, on dépasse largement ce qui a pu être fait les années précédentes. En revanche, on va accueillir parmi les bénévoles, bien sûr, les étudiants STAPS. Ça va de L1 jusqu'au master. Et eux, pour le coup, ça va être vraiment les responsables de l'animation, de l'encadrement. Pour le coup, on est vraiment là dans le cœur de métier de la filière STAPS, c'est-à-dire l'animation d'activités sportives, l'encadrement, travailler sur ça. Et là, plus précisément, avec un public qu'on n'a pas forcément pour tous l'habitude de rencontrer, c'est pour eux en fait une première expérience dans le monde du sport et du handicap. Le sport inclusion, et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui fait partie justement de leur formation.
Et alors ces bénévoles, c'est vous aussi qui allez les encadrer? Vous gérez tout en fait à cette...
Alors du coup, on est chacun reparti sur un peu nos activités, aussi sur nos lieux. Donc ça a lieu à l'UFR STAPS, on utilise la halle des sports, le gymnase, le terrain synthétique, le terrain de rugby avec la piste d'athlétisme. On utilise aussi les salles inter de l'UFR, comme la salle de judo, la salle de gymnastique, la salle de danse. On utilise vraiment toutes les infrastructures. Au Coliseum, on utilise la patinoire et les bassins. Donc on a vraiment plusieurs lieux où la journée est présente. Et donc on est tous répartis un peu dans notre coin, mais on a aussi chaque activité est organisée et gérée par une personne principale. Donc c'est un étudiant en L3 APA qui sont dans notre groupe, dans notre classe. Et donc c'est cette personne-là qui un peu gère son activité, qui propose les séances et qui va animer avec les autres bénévoles autour. Mais du coup, il y a un principal bénévole qui va gérer et autour les bénévoles qui aident.
Ok, et alors c'est plus de 40 activités. Est-ce que vous pouvez nous en présenter, je ne sais pas, une ou deux, hors CC Foot, parce qu'on en a déjà parlé. C'est trop facile, sinon.
Là, dans ce qu'on peut vous dire, on va avoir des nouvelles... je peux vous parler de nouvelles activités qu'on n'avait pas forcément l'année dernière. On va retrouver, par exemple, du Bouncer Ball, on va retrouver du Corn Hall, on vient retrouver également du Chook Ball. C'est plein de petites activités assez ludiques. Là, pour le coup, c'est des activités avec lesquelles on va avoir du matériel qui nous est prêté via le comité sport adapté. donc avec Monsieur Marel, qui est pour le coup un de nos intervenants, mais qui est également un de nos partenaires pour le coup au niveau de l'association.
Après, on a d'autres activités comme le handball qui a été beaucoup demandé. Et du coup, c'est une nouvelle activité. On écoute aussi ce qu'on nous demande, quoi, en fait. Et le handball, ça avait vraiment beaucoup été demandé. Donc, on a décidé de l'installer cette année. Ça fait une nouvelle activité en plus. Et donc, ouais, après, il y a beaucoup de petites activités annexes qu'on a décidé d'installer. On a essayé aussi de dynamiser un peu plus les activités au Coliseum, de rendre un peu plus ludique. Par exemple, on les a appelés voyages nautiques ou parcours aquatique. Ça donne plus envie de venir forcément sur ces activités-là. Et voilà.
Et du coup, il y a des sports qu'on ne connaît pas du tout et qu'on apprend aussi, qu'on découvre ce jour-là. Parce que là, les sports que tu viens d'énoncer, moi, ça ne me dit rien du tout. Hein.
Justement, alors j'ai fait un petit peu ce choix-là aussi de vous donner des sports pas forcément très connus. Puisque je vous en parle à vous, j'en parle aussi aux personnes qui nous écoutent. Mais voilà, cette journée-là, je tiens à rappeler qu'elle est gratuite, qu'elle est ouverte à tous. Et que en fait, vous êtes tous les bienvenus à venir découvrir les activités qui sont proposées, venir découvrir ce que les étudiants STAPS d'Amiens sont capables de proposer. Au-delà de nous, notre équipe, c'est une journée sans bénévoles qui serait impossible. C'est aussi grâce à eux, en fait, qu'on peut mettre en place tout ça. Et après, en fait, encore une fois, c'est cette idée-là de, par exemple, des pratiques que je ne connais pas forcément, où je peux me dire, j'ai tel problème, moi, personnellement, par exemple, à la cuisse, au bras, et je ne pense pas que je suis capable de faire ça. Vous verrez qu'en fait, nos étudiants, avec notre cœur de formation, avec tout ce qu'on a pu avoir grâce à nos professeurs, sont capables, en fait, justement, d'adapter les situations en fonction des différents handicaps. Et c'est ça, pour le coup, aussi, toute la beauté de cette journée-là, pour avoir été bénévole les deux années précédentes. On a une situation de base, en fait, pour chaque activité. Mais cette situation-là, en fait, on va venir la décliner. Chaque public est différent. Parfois, pour les mêmes pathologies, on va devoir décliner encore autrement. Ce qui fait que sur toute une journée, bien que je sois sur la même activité, je ne vais jamais, au grand jamais, proposer la même chose parce que ça va toujours être différent et c'est ça qui est magnifique.
Et alors, on a parlé du public. Est-ce que c'est accessible aussi aux enfants ?
Oui. Alors d'ailleurs, donc, comme on a pu vous le dire, on a des structures spécialisées, par exemple de type IME, on a des EHPAD, on a des foyers de vie, on a des centres de rééducation. Et à côté de ça, on va également retrouver un public scolaire. Public scolaire qui reste, lui, entre guillemets, cadré, puisque le cœur de cette journée, c'est vraiment de faire pratiquer pour les personnes en situation de handicap. On va retrouver, bien sûr, parmi les scolaires, toutes les unités spécialisées. Je vous donne l'exemple des classes de type ULIS. Mais on vient aussi retrouver des classes avec des personnes, entre guillemets, valides, qui viennent pour le coup vraiment pour se sensibiliser justement à cette question du sport inclusif, du sport santé, du sport handicap. Et à ce moment-là, nous, on vient cadrer en fait les écoles. Donc, pour le coup, on marche justement avec le rectorat, avec l'éducation nationale. On vient cadrer tout ça en leur demandant à chaque fois un projet pédagogique en rapport avec le sport, avec le handicap qu'ils doivent nous fournir, sans lequel ils ne peuvent pas participer. Et à ce moment-là, on fait un tri entre ces différents projets, puisqu'on ne peut pas accueillir tout le monde en fait, sur la journée.
Et bien sûr, la journée elle est ouverte à tous et à toutes. Donc une famille qui veut venir sur la journée, c'est totalement possible. C'est 100% gratuit. Donc toutes les activités sont libres. On peut venir n'importe quand, n'importe quelle heure. C'est toute la journée.
Il n'y a pas besoin de réserver.
Pas besoin.
On vient, on se pointe, on voit ce qu'on a envie de tester et ça y va. Quoi.
Là, pour le coup, les inscriptions dont je parle, ça va vraiment être pour des classes soit en scolaire, soit vraiment des établissements spécialisés. Sinon, là, vraiment, toutes les affiches qu'on a commencé à coller un petit peu partout dans Amiens et même dans le centre-ville, ça, pour le coup, c'est vraiment dédié au grand public. C'est de dire, venez voir ce qui se passe, venez essayer, venez découvrir. C'est vraiment le mot qu'on souhaite faire passer, en fait.
Et alors, on va peut-être terminer sur le village partenaire. Vous avez aussi organisé un village partenaire pour valoriser les initiatives locales. En quoi ça consiste, ce village partenaire ?
Alors, le village partenaire, justement, on va inviter beaucoup, que ce soit d'associations, d'entreprises. Je peux penser par exemple aussi à l'Agorae qui va nous venir faire une distribution alimentaire à la fin de la journée. Donc c'est une épicerie solidaire qui fait des distributions alimentaires et hygiéniques totalement gratuites. Et elle sera présente à 18h pour tous les étudiants et aussi les bénévoles qui seront présents. C'est aussi un peu notre façon de les remercier de cette journée, de nous avoir aidés, et donc leur proposer cette distribution gratuite. Après, on a des partenaires tels que Ciel Bleu, qui est totalement en adéquation avec ce qu'on fait en APA. Il y a également la Somme, la ville d'Amiens.
Pour trouver l'association Alpha Picardie qui propose des séjours adaptés pour les personnes en situation de handicap. Et après, voilà, en fait, le village partenaire reste vraiment un lieu au cœur de la journée, puisqu'en fait, bah, généralement, on va voir les structures qui passent quand même. Ça reste un petit peu un fil rouge tout le long de la journée. Les gens passent, repartent, essayent des petites choses au niveau des stands et peuvent ainsi découvrir bah, vraiment ce qui se fait au niveau du territoire. Et après, bah, voilà, au niveau du village partenaire, on tient aussi à rappeler qu'on a la scène et que bah, voilà, sur le temps du matin, bah, généralement, on va venir retrouver la présentation du coup, des différents stands, avec justement une retranscription pour ceux qui étaient là à la journée d'accueil des étudiants sur écran géant. À 11h, vous pourrez retrouver du coup une table ronde sur les thèmes du sport, de l'inclusion, pour pouvoir voilà, expliquer ce qui se passe au niveau du territoire, quels sont les freins que les personnes en situation de handicap peuvent rencontrer. Après, bah, sur le temps du midi, midi et quart, là ce sera le temps un petit peu plus institutionnel, donc avec les discours, le président de l'UPJV, notre doyen, nous des membres de l'équipe. Et après, un des temps, je dirais, qui marque le plus les gens, pour le coup, parce que là, c'est vraiment très visuel, c'est le temps de la Zumba adaptée, qui se déroule à 12h45, avec du coup une de nos professeurs qui vient sur scène, d'autres étudiants qui viennent également proposer ce temps-là. Et c'est vraiment l'image que les gens retiennent en général de la Jache, d'avoir voilà, une scène et un bain de foule.
Et bien sûr, dans l'après-midi, il y aura aussi deux groupes de musique, normalement. Qui devront être présents pour jouer sur scène. Et au total, c'est 16 partenaires qui seront présents au village. Donc ça fait du nombre à venir découvrir.
Bon, c'est très chouette ça, c'est très très cool. Donc c'est de 9h à 17h, c'est au Coliseum et à l'UFR de Staps.
C'est ça.
C'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est accessible à tous et à toutes. Faut pas hésiter à y aller, faut découvrir plein de choses, plus de 40 activités. Vous avez un mot pour terminer cette interview ?
Moi, le dernier mot que j'aimerais vous donner, c'est bloquer tout de suite votre 17 mars. Venez faire un tour, venez vous amuser, venez découvrir et venez nous montrer vos sourires. C'est le plus important pour nous.
Venez nombreux.
Ok, super. Et on retrouve toutes les informations donc, sur vos réseaux sociaux.
Exactement. Donc, vous pourrez taper
jache.staps.
Super.
Partout.
Merci beaucoup.
Cossack Steve's baptized in
l'écoute d'Info Club Sandwich sur Radio Campus Amiens 87.7 FM. C'était Yeah Mad de Humour, un groupe style post-punk super chouette qu'on va d'ailleurs retrouver demain à la Lune des Pirates avec Mega Surf en première partie à partir de 20h30. Il reste quelques places, alors dépêchez-vous, comptez 12€ et 7€ pour les heureux détenteurs de la carte Lune qui elle est à 10€ et ça en vaut le coup. Avant de retrouver Emmanuel et son invité, je vous annonce que la troisième édition du festival artistique féministe Les Janes, dans la place Caire à Corps, à la briqueterie à Amiens, commence ce jeudi 5 mars et se termine ce samedi 7 mars. On commence par un vernissage et une zone d'expression libre jeudi de 18h à 21h, puis court-métrage et discussion le vendredi de 17h30 à minuit, l'entrée de 3 à 5€, et le samedi de 10h à 22h, on retrouve des ateliers, spectacles, concerts, une scène ouverte, puis le bal des folles électriques costumées par DJ B-Side, et l'entrée est de 5 à 8 euros. Vous pouvez également compter 8 euros si vous prenez le pass de jour. C'est tout pour moi, alors Emmanuel, on t'écoute.
Bonjour. Alors, on vous a parlé toutes les semaines au mois de décembre, au mois de janvier, du budget. Et maintenant, on rentre dans la phase des municipales, donc on recommence avec une campagne qui s'appelle Causons Culture, qui organise un débat le samedi 7 mars de 18h à 19h45. Attention, c'est précis, à l'amphithéâtre Orchestre de Picardie. Et aujourd'hui, on reçoit Ludovic Darras du CRAC, qui va nous présenter d'abord qu'est-ce qu'il vient faire dans cette aventure.
C'est ça. Eh ben bonjour. Alors moi je suis donc Ludovic Darras. Je suis membre du bureau de ActoPro, qui est l'association des compagnies professionnelles de spectacle vivant des Hauts-de-France. Et en compagnonnage avec le CRAC, on organise justement ce
Causons. Le CRAC. Alors on ne connaît pas encore.
Le CRAC, collectif régional Agriculture. C'est un regroupement de plusieurs structures représentantes de toutes les Hauts-de-France. Donc, par exemple, il y a ActoPro qui est adhérent, il y a la CAP, il y a des syndicats aussi. Donc, ça regroupe à peu près 10 grosses structures qui représentent à elles-mêmes 700 structures. Donc, c'est vraiment une grosse organisation qui s'est organisée à partir de 2015 sur les élections régionales pour interpeller les futurs candidats, enfin les candidats et les futurs locataires de la région, on va dire, à s'interroger en tout cas sur les questions culturelles et quels sont leurs projets concrets, quoi.
Et alors c'est vraiment toutes les formes de culture, puisque avec ActoPro, les principaux co-organisateurs pour le débat de samedi, c'est l'Agence régionale du livre, voilà, et de la lecture.
Par exemple, voilà, c'est
on
ça.
On est vraiment bien sous
on est,
toutes
on est
les
sur,
formes
on est sur toutes les formes de même de la que ce soit musique actuelle. Voilà, on est vraiment sur la culture en général et pas forcément sur du théâtre.
Et alors, pourquoi ce débat ?
Eh bien, parce que c'est intéressant que les citoyens puissent s'informer, ou en tout cas être informés, des projets culturels de notre ville, qui sont quand même très, très importantes. Et il faut qu'on puisse en tout cas mettre en avant ces questions, puisque... souvent, les candidats n'en parlent pas tout de suite, puisqu'on parle de la ville en général, l'école, la sécurité, voilà, des choses comme ça. Et souvent, on oublie cette question culturelle qui nous semble, nous, très importante, puisque la culture, c'est la santé, en vrai. C'est la santé d'une ville, c'est la santé d'une vie qu'on habite, quoi.
Et alors, il y a quelques mois, au congrès du syndicat des musiques actuelles, une des conclusions d'un débat qui a eu lieu pendant ces rencontres, c'était que hier, les élus parlaient avec les gens de la culture. Et qu'aujourd'hui, au mieux, ils parlent de la culture, ils viennent visiter des équipements, mais qu'il n'y a plus de dialogue. Vous pensez qu'un débat en pleine période électorale, ça va permettre de renouer ces occasions de dialogue ?
Je pense que c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Après, c'est vrai qu'il y a toujours le problème des gens des candidats qui se déplacent pas forcément dans les salles. Là, on a vraiment envie de les interpeller sur nos professions, sur les gens qui participent à la vie culturelle amiénoise. Il faut aussi savoir que C'est vrai qu'on parle, c'est toujours compliqué de parler de subventions parce que c'est toujours un peu abscon. Enfin, les gens ne comprennent pas trop, mais c'est vrai que c'est un vrai service public à la base. Et que si on aide plus les, que ce soit les lieux ou les compagnies, les billets de spectacle vont augmenter. Donc il y a une vraie correspondance en tout cas avec la politique aminoise. Et on a besoin d'avoir un vrai dialogue avec les candidats pour comprendre comment on travaille la suite, comment on co-construit ensemble avec l'écosystème local, c'est ce projet culturel. Surtout que là, c'est les municipales, le candidat, enfin le prochain maire aura une. Je crois que ça va être sur 8 ans, puisqu'il y a les élections présidentielles entre temps. Donc il est allongé d'une année. C'est 7 ans. Donc c'est quand même 7 ans de mandature avec des fois des grands projets, mais il y a aussi des petits projets, des projets à soutenir qui peuvent aller. Nous, on va aussi parler, questionner nos propres métiers, parce que c'est des entreprises culturelles. Mais il y a aussi des associations qui proposent des ateliers musique, des ateliers d'art plastique, qui de toute façon vont avoir un réel écho, un retour sur des décisions culturelles. Donc ça va vraiment toucher, tout le monde. C'est pas que une question de faire Amiens une ville attractive où d'un coup ça amène du monde. Il va falloir aussi, il y a tout un travail sur plusieurs années sur un territoire qui se travaille autant en musique, autant en cinéma, autant en théâtre. Par exemple, à Amiens, Amiens c'est quand même 170 000 habitants avec la métropole. On a une salle ARSC. On a une seule salle de cinéma à RSC, par exemple. Donc c'est très peu. Donc voilà, c'est tous ces petits questionnements qui vont nous permettre, en tout cas, d'élargir la pensée et de se rendre compte qu'une ville comme Amiens peut retrouver un petit peu sa capacité de rayonner avec l'écosystème local en tant qu'ancienne capitale régionale.
Mais on a vu avec les débats sur les budgets nationaux que le budget de la culture avait payé cher,
ouais,
sa contribution au budget global de la nation, hein, avec une baisse de 200 millions au niveau national, sans compter l'audiovisuel public.
Oui.
On en a beaucoup parlé ici, puisque les radios en étaient comptées. On a vu aussi qu'il y avait plusieurs régions qui avaient une politique de plus en plus de désengagement du soutien à la culture, et oui, c'est pas qu'une affaire financière.
Comme le théâtre Nouvelle Génération à Lyon, par exemple.
Voilà, c'est pas le cas dans les Hauts-de-France, je pense qu'on peut le dire. On a vraiment une région, quelles que soient les histoires de couleurs, qui soutient encore largement la présence culturelle, tant en ville qu'en dehors. Mais... les municipalités, les communautés de communes, les agglos, est-ce qu'elles peuvent vraiment faire quelque chose dans ce contexte où tous les autres budgets baissent ? Pour la culture, j'entends.
Oui, oui. Bah, c'est une bonne question. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que il y a quand même un poids sur un nombre d'habitants. Souvent, on dit que, enfin, il y a une sorte de PIB, de produit intérieur brut culturel par habitant. Dans les villes. Donc il faut savoir que, alors après ça dépend de comment les villes et les coms de com, les EPIC veulent mettre comme somme, comme ligne budgétaire. Mais je vais pas dire de chiffres, mais une personne représente tel poids financier culturellement. Et je pense que c'est notre devoir de citoyen, à un moment donné, de s'engager à choisir, en tout cas, où on a envie de placer et comment on a envie de placer ce petit capital culturel, on va dire, par habitant. Donc soit sur des grands événements, soit sur des petites choses. Donc voilà, après, ce sera aux candidats invités de pouvoir nous expliquer un petit peu quelles sont leurs orientations. Mais je pense vraiment qu'il y a une vraie vie locale, en tout cas à Amiens, qui est très très forte, que ce soit dans plusieurs lieux, dans plusieurs collectifs. Il y a des choix politiques à comprendre quand on va voter. Surtout, par exemple, il va y avoir plein de nouveaux votants à 18 ans. Qu'est-ce qu'on fait à 18 ans? Est-ce qu'on arrive à sortir voir des spectacles? Est-ce qu'on arrive à voir de la musique? Est-ce qu'on écoute de la musique? Comment on écoute la musique? Voilà, c'est des vrais enjeux de société. Surtout que là, ils ont 18 ans et voilà, dans 7 ans, ils en auront 25. Ça va quand même les accompagner un bon bout de temps.
Alors, toutes les listes ont été invitées.
Oui.
On en a au moins 6 qui ont répondu, donc ça veut dire qu'un peu toutes les couleurs vont être représentées.
C'est ça.
Ce qui peut donner un vrai intérêt à cette rencontre. Comment ça va se passer? Un long tunnel, chacun parle à son tour, et puis après, on s'en va?
Non, on va essayer de... On a une petite série de 9 questions. 9 questions où chacun... Voilà, c'est encore en train de s'écrire, mais ce sera des prises de parole de 3 minutes. Chacun aura 3 minutes, ce sera cadré pour chaque candidat. Chacun aura 3 minutes pour expliquer son point de vue sur les questions, avec vraiment un temps de parole cadré pour tout le monde. Et il y aura une prise de parole du public pour des questions propres à chacun, en tout cas des propres pour interpeller en tout cas nos candidats à ces questions. L'idée c'est que ce soit un échange, quoi. C'est vraiment un débat citoyen pour échanger sur nos questions.
Donc on vous rappelle samedi 7 mars 18h. À l'amphithéâtre de l'Orchestre de Picardie.
Voilà, 45 rue de Pointin.
N'arrivez pas trop tard.
Oui, la jauge est limitée.
Le monde rentrera peut-être pas.
C'est ça.
Donc, n'hésitez pas à arriver un petit peu en avance. Nous, je pense qu'on se fera le relais aussi de ces débats-là encore dans les mois qui viennent, puisque une fois qu'il y aura des élus, bah, il y aura quand même une politique à mettre en place, quel que soit... la liste ou les listes qui l'emportent dans 15 jours. Et on vous rappelle que les élections, c'est le 15 et le 22 mars. Donc c'est maintenant qu'il faut se renseigner, pas le mois prochain.
C'est ça.
Merci Ludovic.
Merci Manu.
Merci beaucoup à vous deux pour cette belle discussion. En tout cas, Info Club Sandwich, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour se quitter, on va écouter LA Runaway de The Horrors. On se dit à demain sur Radio Campus Amiens. You tell me.